affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour devrait être traversée par un puissant souffle romanesque. En effet, nous avons la chance d'accueillir dans notre studio Adélie de Clermont-Tonnerre. Madame, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Vous êtes la lauréate 2016 du Grand Prix du roman de l'Académie française pour votre second roman, je crois, qui s'appelle « Le dernier des nôtres » publié chez Grasset. Alors, je ne suis pas, bien évidemment, dans la tête des membres du jury de l'Académie. Je ne suis pas habilité à parler en leur nom. Toutefois, une chose est sûre, et donc je me permets de l'affirmer, cette année, le jury a récompensé un roman romanesque. Cette année, le Grand Prix du roman n'a jamais aussi bien mérité son nom, car il s'agit d'un roman avec une histoire, de vrais personnages, des rebondissements, des destins variés. On s'accroche à eux, on vibre avec eux, on pleure parfois avec eux, on s'inquiète pour leur destin, ce qu'ils vont devenir. Bref, tous les ingrédients d'un vrai roman qui vous tient de la première à la dernière page. C'est une œuvre de fiction, mais qui mêle aussi la vie réelle et le souffle de l'histoire, tant et si bien qu'à travers ce roman, on a l'impression d'en lire plusieurs. C'est le Grand Prix des romans de l'Académie française cette année, puisqu'on hésite. Est-ce à la fois, c'est à la fois une histoire d'amour, un roman historique, un roman sociologique à certains égards, décrivant des personnages tenaillés par toutes les passions humaines, on l'a dit, le sentiment amoureux, mais aussi la volonté d'ascension sociale. Donc finalement, le mieux, c'est peut-être de vous demander, qu'est-ce que ce roman ?
Mais c'est vrai que je serais très en difficulté si je devais qualifier, avec les formes et les genres habituels, ce roman, à savoir ce n'est pas un roman d'apprentissage uniquement, pas un roman d'amour uniquement, mais pour moi justement c'est la forme même du roman, ce plaisir infini de cette forme romanesque qui est d'être sans doute celle qui se calque le plus à la vie. Or, la vie est multiple. La vie n'est jamais, au fond, le fil d'une histoire unique qu'on peut dérouler de façon linéaire. Justement, la vie et le roman, pour moi, sont mêlés de joie et de peine, comme vous l'avez dit très gentiment, d'histoires grandes et petites, de personnages très différents. Et je voulais essayer finalement d'écrire les livres que moi j'aime lire, à savoir un livre qui vous emporte, qui vous touche, et comme vous avez utilisé ce mot-là, et ça me fait très plaisir, qui vous fait vibrer.
Alors, venons-en à l'histoire et aux personnages. Le roman est titré « Le dernier des nôtres ».
Oui.
Alors, je ne demande pas de révéler exactement qui est le dernier de l'autre, car je l'ai dit, c'est un roman qui comporte une part de suspense, donc il ne faut pas arriver tout de suite à la fin, il faut le lire, il faut commencer par le début. Campons toutefois le décor. Le roman fonctionne en quelque sorte sur deux jambes et deux périodes. Mmh. On est à la fois transporté dans le New York des années 70 et c'est le départ dans l'Allemagne de 1945,
oui.
Assez crépusculaire. Que se passe-t-il dans ces deux univers ?
Mais écoutez, vous avez parfaitement décrit cette double temporalité. En fait, le premier chapitre, c'est Manhattan, la fin des années 60, le début des années 70. C'est ce moment un peu d'effervescence new-yorkaise, de grande créativité, de liberté, d'ivresse, un peu de vie. C'est le temps de Bob Dylan, de Patti Smith, d'Andy Warhol, de La Factory. Et c'est là que mon jeune héros, Werner Zilch, qui a 25 ans, qui est le fils adopté d'une famille de la classe moyenne américaine, qui ne sait rien de son passé ni de ses origines, rencontre une jeune femme, Rebecca. Et là, c'est souvent comme ça que ça commence, ils ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre. Parce que lui vient d'un peu nulle part et rêve de s'inventer un avenir, et qu'elle, sous ses dehors d'artistes rebelles et proches d'Andy Warhol, est la fille d'un des hommes les plus puissants des États-Unis. Donc ça, c'est le premier chapitre. Cette rencontre qui, pour Werner, est un vrai coup de foudre. Pas du tout pour Rebecca, qui va demander à être convaincue. Et dès le deuxième chapitre, on est en flashback. Et c'est ce que vous avez décrit, à savoir c'est Dresde, 1945, une véritable apocalypse, les bombardements...
Oui, il faut peut-être rappeler ce qui s'est déroulé à Dresde pour bien saisir les choses.
Dresde, en fait, c'était donc une ville allemande absolument magnifique où il y avait essentiellement des réfugiés, des civils. Il n'y avait pas, disons, de cible stratégique pour les Alliés, mais les Alliés ont décidé de bombarder cette ville, sans doute aussi dans la guerre morale qui était menée contre le Reich. Mais forcément, ça a été l'un des bombardements les plus contestables de la guerre, parce que ça a fait des milliers de morts dans des conditions atroces. Et dans ce contexte historique terrible, une jeune femme, toute jeune femme, Louisa, très enceinte, donne naissance à un petit garçon. Elle meurt en lui donnant naissance. Et ce petit garçon, miraculeusement sauvé du désastre, sera l'un des films de cette intrigue.
Cette intrigue qu'on ne peut pas révéler.
Je vais donc, pas
alors,
complètement.
Alors que votre roman est tout sauf un roman à thèse, nous l'avons dit, nous allons être obligés, pour ne pas révéler l'intrigue, de le traiter un petit peu comme un roman à thèse, de prendre du recul et de vous mettre dans la position du critique de votre propre roman. C'est navrant, mais il n'y a pas d'autre solution
vais faire de
pour
mon
en
mieux,
parler,
je vous assure.
Sans tout révéler. Il y a un effet de contraste, évidemment, absolument saisissant entre le New York des années 70 et cette Allemagne hitlérienne en plein effondrement. Nous saisit dès le second chapitre, lorsqu'on est plongé dans cet enfer. Pourquoi avoir choisi cet effet ? Est-ce qu'il s'agissait de démontrer, de laisser entendre que finalement, même dans une époque d'insouciance comme celle du New York des années 70, le passé ne passe pas, on ne peut pas l'oublier ?
Mais c'est assez juste. C'est-à-dire que nous, en 2016, nous voyons ces deux époques de façon parfaitement distincte. Or, elles sont liées. Les enfants des années 70 sont les enfants de ceux qui ont connu la guerre et qui ont connu ce moment qui est peut-être le pire de l'humanité. Et c'est vrai que je me suis interrogée parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre notre époque et les années 70, en tout cas dans les quêtes de la société. Par exemple, il y a cette aspiration d'un retour à la nature, il y a tout un mouvement en Europe et dans le monde qui va contre cette idée de croissance, de consommation, qui va vers une idée d'une plus grande solidarité, une envie de changer le monde. Sauf que nous, ça naît de la crise. Et que dans les années 70, ça naissait de la prospérité. Et puis aussi, les années 70 ont vraiment cru qu'elles allaient changer le monde profondément. Et je me suis demandé d'où venait cette pulsion de vie, de créativité, cet enthousiasme finalement qui s'est parfois très très mal terminé d'ailleurs. Et c'est logique parce que quand ces enfants des années 70 se retournaient vers leur passé immédiat, il était tellement épouvantable qu'ils ne pouvaient pas comme nous être nostalgiques. C'était impossible d'être nostalgique de la guerre. Ils ne pouvaient que se tourner vers l'avant et essayer d'inventer un nouvel avenir. Donc toutes ces questions m'ont beaucoup intriguée et j'ai voulu finalement chercher des réponses parce que je crois encore plus maintenant avec le surgissement de la violence que nous connaissons, il faut pouvoir aller chercher dans le passé certaines réponses, certaines manières finalement de lutter contre ce que nous traversons maintenant et qu'on ne peut pas au fond être sage et savoir comment s'adresser, comment réagir face à la violence si on ne va pas chercher les exemples de nos pères et de nos grands-pères. Et puis après, c'est vrai que moi le tout premier chapitre que j'ai écrit, c'est cette naissance dans les bombardements de Dresde. Et puis je me suis demandé au fond pourquoi j'étais passionnée par cette époque. Je me suis demandé aussi pourquoi je revenais souvent à ces années 60-70 puisque c'était déjà une partie du thème de mon premier livre. Et en fait, j'ai compris que c'est quelque chose de psychologiquement assez simple. C'est que les années 60-70, c'est la jeunesse de mes parents. Et la vie est ainsi faite que forcément, on est tous les uns après les autres gentiment poussés vers la sortie. Et que pour moi, revenir à ces années, c'est une manière de les garder jeunes, de les garder vivants, de les garder près de moi. Et je me suis aperçue qu'en fait, 45, c'était exactement la même chose puisque mon grand-père, qui a été résistant, mais qui était très secret sur ces années de guerre, est mort au moment où je commençais ce livre. Et je crois qu'au fond, me plonger, moi, dans la guerre, c'était une manière de rester avec lui.
Beaucoup des personnages ont la tentation, toutefois, pour vivre l'instant, pour s'enivrer des plaisirs de la vie, de miser sur l'oubli.
Totalement. C'est exactement la question. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'une Rebecca, donc cette jeune héroïne dont mon Werner tombe follement amoureux, est quelqu'un qui fuit la vie d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle fuit dans l'ivresse, dans l'excès, dans le sommeil. Elle a cette caractéristique assez étonnante peut-être pour une jeune femme d'escalader. Elle aime l'escalade, elle escalade les façades, elle s'enfuit par les fenêtres. Et à un moment, cette jeune femme va être contrainte, comme Werner, finalement d'arrêter de fuir et de faire face à la réalité. Et de faire face notamment à un secret de famille extrêmement lourd à porter, qui explique à la fois l'attirance et la lutte que vont se mener mes deux personnages. Et à l'inverse, Werner est un jeune homme qui lui croit à la force de la volonté. Il pense qu'à force d'énergie, de volonté, on peut plier le monde à sa main.
Il se veut américain.
Il se veut américain, il se veut, puis c'est un jeune homme.
Pays construit sur l'amnésie aussi, quand même.
Voilà, tout à fait.
Et la rupture avec le passé.
Tout à fait. Donc finalement, ça lui va bien. Il ne sait rien de son passé, il n'a aucun moyen de savoir quoi que ce soit de son passé. Il en a fait son parti et il a décidé qu'il irait de l'avant. Sauf que là encore, c'est un peu plus compliqué. Oui.
Les événements feront qu'ils seront obligés tous les deux de se confronter à ce passé.
Exactement. En fait, l'épisode charnière, c'est Werner a enfin convaincu Rebecca de ses charmes. Il semble filer un parfait amour. Et arrive le moment de la présentation aux parents. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, que vous avez déjà vécu cette épreuve de la présentation aux parents.
Hélas. Oui. Enfin, c'est fait.
C'est fait, ça y est, vous êtes accepté. On a forcément envie de faire bonne impression, on a forcément envie de convaincre les parents de la personne qu'on aime. Et ça ne se passe malheureusement pas bien du tout. D'abord parce que le père de Rebecca méprise ouvertement ce jeune homme venu de nulle part avec un appétit de fortune qui ne lui plaît pas du tout. Et surtout, lorsqu'il rencontre la mère de Rebecca, à la simple vue de Werner, de mon héros, la mère de Rebecca perd toute couleur, est au bord du malaise, elle reconnaît quelqu'un en lui et elle reconnaît quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal. Évidemment, c'est le début des problèmes.
À cet instant du livre, on se dit que l'oubli peut être une solution, que finalement les gens seraient heureux, parfaitement heureux, sans passé, en se nourrissant uniquement de projets communs, en vivant dans cet éternel présent qu'on nous propose d'ailleurs comme une solution aujourd'hui encore. Mais comme je l'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Et finalement, alors, où peut-être la rédemption, quand ce passé ressurgit, est présent, s'impose aux uns comme aux autres, à ceux qui peuvent se sentir coupables, à ceux qui peuvent se sentir victimes. Et on voit qu'il y a des allers-retours. D'ailleurs, rien n'est... Les camps ne sont pas si simplement définis dans votre roman.
Mais c'est vrai que je me suis posé cette question, vous avez raison, on a toujours envie de dire il y a les bons, les méchants, c'est le ressort de beaucoup de films, de beaucoup d'œuvres d'ailleurs, et c'est l'éternel problème des nuances de gris entre ces deux extrêmes, et elles sont infinies. Et je me suis intéressée à la personnalité, là, de quelqu'un qui a véritablement existé, qui est Von Braun, et qui est particulièrement exemplaire de cette problématique. Von Braun, c'est un jeune homme surdoué. À 13 ans, il commence avec des amis à créer les toutes premières fusées. À 25 ans, il est en charge, encouragé par le régime nazi, du plus gros programme d'armement du pays. C'est lui qui invente les tout premiers missiles, les missiles V2 qui servent à bombarder Londres. C'est lui, malheureusement aussi, qui donc ferme les yeux sur les milliers de travailleurs forcés qui fabriquent ces missiles et qui, dans des conditions absolument épouvantables. Et à la fin de la guerre, il a 33 ans. Il est quand même tout jeune et il décide, il hésite entre les soviétiques et les américains, il décide de se rendre aux américains parce que son projet c'est d'aller dans l'espace et qu'il se dit que
c'était son rêve initial, son rêve d'enfant.
Son rêve initial, voilà. Or, les Américains vont, à la faveur d'une opération secrète assez stupéfiante qu'on a appelée l'opération Paperclip, permettre à lui et à 117 savants de son équipe, et d'ailleurs au total 1500 savants, d'échapper au procès de Nuremberg, d'échapper à toute forme de condamnation étant donné leur passé nazi, de partir aux États-Unis. Et Von Braun, en quelques années, on peut dire qu'il avait une certaine capacité d'adaptation, reprend la direction du programme spatial de la NASA, et c'est grâce à Von Braun que les Américains iront sur la Lune. Et ce personnage m'a fascinée. Alors, il sert de trame historique parce que ces deux temporalités que nous avons évoquées se rejoignent, évidemment.
Par son biais.
par son biais notamment. Ce personnage m'a fascinée parce que tous les gens qui l'ont rencontré disaient que c'était un homme mais excessivement sympathique.
Empathique, dites-vous.
Empathique, charismatique, il faisait attention aux gens qui travaillaient pour lui, il était bon père de famille, gentil mari, enfin bon, il avait toutes les qualités en apparence d'humanité. Et forcément, il a quand même participé à ce crime épouvantable des camps de travail de Dora, où alors certaines personnes disent qu'il a un peu essayé d'aider l'un des savants français, par exemple, mais sans grand succès. D'autres disent qu'ils l'ont vu sur place et qu'il ne pouvait absolument pas ignorer ce qui s'était passé. Et en même temps, avait-il vraiment le choix? Il était lui-même surveillé par la Gestapo. Donc cette figure-là catalyse effectivement toutes les questions qu'on peut se poser sur la culpabilité, la responsabilité. Et c'était particulièrement intéressant, je trouve, encore une fois, parce qu'il faut comprendre ce phénomène de la violence à notre époque, de revenir sur ce genre de personnage.
Il y a cette culpabilité des acteurs directs, mais il y a aussi la façon dont elle peut se transmettre à leurs descendants, la façon dont l'histoire peut éventuellement se perpétuer dans un désir éventuellement de revanche ou de justice, oui. De rédemption personnelle. Comment envisagez-vous tout cela? Comment avez-vous voulu le traduire en dehors des faits du roman?
Mais écoutez, de le traduire, en tout cas, c'est tout à fait l'une des thématiques que j'aborde, parce que si je vous demande, les enfants sont-ils responsables des crimes de leurs parents? Je pense que votre première réaction sera probablement de dire non, les enfants ne sont pas responsables. Après, si je vous demande, est-ce que les enfants se sentent responsables des crimes de leurs parents? Là, on touche du doigt quelque chose de radicalement différent. Et on touche du doigt quelque chose de grave, puisque c'est quelque chose qui se transmet des parents aux enfants, mais aussi des enfants aux petits-enfants, et que ça peut durer. Ça, même les psychanalystes le voient régulièrement. C'est même le fondement de la psychanalyse, de penser qu'on peut réparer les familles et les individus par ça. Ce sentiment de responsabilité peut avoir des échos extrêmement durables et extrêmement lointains. Et c'est l'une des choses que je voulais voir, notamment comment on répare les êtres humains de ce poids des crimes de leurs parents ou des traumatismes de leurs parents, parce que Rebecca, elle porte au fond le poids terrible de tout ce qui est arrivé à sa mère, qui a été une victime totale. Donc on ne peut pas dire en plus que les victimes échappent finalement à cette transmission générationnelle du trauma. Et j'ai trouvé ça très important, au fond, de voir comment deux êtres allaient tenter de se réparer eux-mêmes, allaient tenter de réparer leur famille, allaient tenter aussi, de manière plus vaste, de réparer l'histoire. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est toute la question du livre. Mais je trouvais ça important, effectivement.
Et par quels moyens? C'est aussi un roman de rédemption, non?
Oui, c'est un roman de rédemption. J'ai beaucoup hésité. Certaines personnes, d'ailleurs, m'en ont fait le reproche sur la fin. Je ne vais pas la révéler, mais j'ai hésité entre deux options sur la fin. Et le moment où j'ai été le plus certaine de mon choix, c'est quand, au Salon du Livre de Nancy, un monsieur est venu me voir. Il m'est arrivé des moments très bouleversants dans les signatures, et notamment donc, ce monsieur qui vient me voir et qui me dit « Ma femme n'a pas pu acheter votre livre, elle est très malade, mais elle rêve de l'avoir, est-ce que vous pourriez m'en donner un exemplaire ?» Et là, il n'a pas pu s'empêcher de me parler, et il m'a dit « Vous savez, ma femme est fille de déportée, cela a ruiné notre vie, ça a ruiné la vie de mes enfants, et c'est en train d'atteindre mes petits-enfants. » Et il m'a dit « J'espère que dans votre livre, il y a de la lumière. » Eh bien, je peux vous dire que dans ces moments-là, on se dit qu'il faut faire attention à ce qu'on écrit et qu'il faut faire attention à ses choix.
Donc vous êtes contente de la fin que vous avez choisie, finalement?
Moi, j'en suis contente, oui. Il y a une forme de lumière, oui.
J'ose à peine le dire, car j'ai peur que ça fasse gnangnan, mais après tout, l'amour, c'est peut-être la rédemption.
Oui, vous savez, on se moque beaucoup, effectivement, de la question de l'amour. Moi, je trouve que ça reste, malgré tout, la chose ou l'une des choses les plus importantes, que c'est facile, le ricanement. Je trouve que c'est facile d'être dans le dénigrement, et je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être dans des valeurs positives. Surtout à notre époque, on a finalement besoin de reconstruction. On a tout déconstruit. On a tout déconstruit, très bien. C'était sans doute une étape nécessaire pour libérer les individus. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on invente quelque chose de nouveau, qu'on reconstruise.
Là, c'est la jeune femme née dans les années 70 qui parle. Hein.
Non, je suis née vraiment, oui, je ne les ai pas connues, les années 70. Mais je pense sincèrement qu'il est nécessaire de maintenant inventer les nouveaux modèles, inventer un nouveau contenu et que de continuer à croire qu'on est dans la provocation lorsque l'on déconstruit est une, là pour le coup une utopie et surtout une répétition. Ça a été fait de déconstruire. On a déconstruit à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Ça a libéré l'individu d'une certaine manière. Maintenant, inventons quelque chose de nouveau.
On a déconstruit la littérature aussi, non ?
Oui, mais d'une certaine manière, oui, exactement. On a profondément déconstruit la littérature. C'était intéressant au moment du nouveau roman. On a dit, bon, les histoires s'est dépassées, les personnages, on a déjà fait. Maintenant, il faut inventer les nouvelles formes du roman. Alors, très bien, c'était important et utile et intéressant de le faire. Sauf que, on n'est pas obligé systématiquement d'être en rupture avec notre passé, avec notre histoire. Je pense que c'est un mal, pour le coup, assez propre à notre pays que d'être en rupture avec notre passé, notamment parce que nous n'assumons pas notre passé. Et nous n'assumons pas forcément facilement la guerre d'Algérie, et nous n'assumons pas forcément facilement Vichy, et nous n'assumons pas forcément facilement encore aujourd'hui la Révolution française. Et que ce lien avec le passé est pourtant notre histoire, et que justement le roman, comme vous avez dit, romanesque ou le roman d'imagination, fait partie de notre histoire. Je ne dis pas qu'il doit être le seul, mais pourquoi, au fond, rejeter et refuser de laisser une place à ce roman-là qui, en plus, a été copié dans le monde entier. C'est-à-dire que souvent on dit « vous avez fait un roman à l'américaine ». Mais ces fameux romans à l'américaine se réclament tous du roman français du fin 18e et du 19e. Donc pourquoi au fond...
C'est le tempo qui est américain, vous avez raison.
Oui, mais quand on cherche le grand roman français, que ce soit Zola, chez Alexandre Dumas, il y a du tempo aussi. Chez Balzac, évidemment, là on est parfaitement dans cette mêlée des genres que vous avez évoqués. Pareil pour le roman russe. Moi je pense qu'il y a de la place pour ces formes-là. Et bien sûr, je trouve qu'il y a, c'est la tendance en ce moment, de merveilleux textes qui sont tirés du fait divers dans la lignée de Truman Capote et de Deux sang froid. Il y a de merveilleux textes qui sont nourris d'une tradition de l'autofiction aussi. Mais on peut aussi laisser la place à ce roman romanesque et inventer quelque chose au lieu de systématiquement le déconstruire. Voilà.
Alors, votre roman, nous l'avons dit, se déroule entre l'Allemagne et les États-Unis. Lorsque je vous entends, j'ai l'impression que votre prochaine œuvre pourrait être un roman participant à une redécouverte du roman national français.
Non,
dit,
alors
il y a des blessures
ça...
à combler quand même. Hein,
oui, alors j'irai pas du
que
tout
vous avez
ce
évité
terrain-là.
En transposant cette problématique ailleurs.
Oui,
c'est
alors
intéressant quand même.
C'est vrai. Alors j'irai pas du tout là-dessus parce que là je me suis lancée dans quelque chose de très contemporain où justement je serais moins dans l'histoire que celui-ci, mais je pense effectivement que nous n'avons pas à avoir honte de notre passé et que s'il y a des choses de notre passé sur lesquelles nous aurions des raisons d'avoir honte, eh bien assumons-le, réglons-le et que maintenant il faut quand même essayer d'aller vers l'avant.
Et tout le monde s'en sentira mieux.
Oui, voilà, c'est la réparation, c'est comme dans mon livre.
Oui, c'est extraordinaire. La thématique de l'identité finit par ressurgir, quelle que soit l'émission, quels que soient nos invités.
Moi, je ne suis pas du tout sur une identité politique. Là,
je suis
vraiment sur cette question que je crois vraiment... C'est une tendance humaine, on va dire, propre peut-être à l'adolescence et au moment du jeune adulte, que de vouloir être en rupture avec sa famille, avec son histoire, avec son pays, avec à peu près tout. Ce moment de rébellion, me semble-t-il, est passé. Je crois que nous pourrions tenter d'entrer dans l'âge adulte et au fond ne pas systématiquement dénigrer ce qui fait notre histoire. Voilà.
Et finalement, cet âge adulte, il a ses plaisirs aussi, non ?
Mais cet âge adulte est aussi merveilleux parce que l'on sait qui l'on est, on sait vers quoi on a envie de tendre et puis que c'est le moment où justement on prend peut-être en charge une partie des responsabilités qu'on a fui plus tôt ou qu'on n'avait pas encore la capacité de le prendre en charge. Mais là on devient très théorique.
Oui, mais on va revenir au roman parce que précisément on a le sentiment que les personnages au fil des pages tendent vers cet âge adulte qui est celui de l'acceptation et que c'est à ce moment que finalement ils trouvent un équilibre et un bonheur plus profond.
En tout cas, une forme sérénité. Voilà. Une forme de sérénité. C'est tout à fait juste parce que, au départ, mon héros est quelqu'un de très en colère, d'ailleurs. C'est quelqu'un de très révolté. Il a beaucoup de tempérament. Parce que, justement, il y a beaucoup de choses avec lui-même qu'il n'a pas résolues. Et puis, c'est un personnage, c'est typique de nos jeunes années. Je crois que quand on est jeune, on a l'impression qu'on a tout lu, tout vu, tout bu. Et puis, la vie, ensuite, se charge de vous expliquer que vous n'avez rien lu, rien vu, rien bu et que tout ce que vous pensiez être une absolue certitude est en fait beaucoup plus complexe qu'on ne l'imaginait. Donc ce mouvement-là, finalement, mes deux jeunes héros vont le connaître. Et c'est pour ça que j'espère que des personnes relativement jeunes se reconnaîtront dans ce livre aussi, parce que entrer dans l'âge adulte, c'est effectivement ça. C'est au fond avoir beaucoup plus de tolérance et d'humanité envers les gens qui nous entourent, envers aussi nos parents, parce que quand on est plus jeune, on a une idée des parents extrêmement binaires. Et ensuite, on s'aperçoit qu'ils ont eu une vie avant de nous avoir, qu'ils ont une vie en parallèle du fait d'être parents. Et ensuite, évidemment, après nous. Et je pense que c'est important d'être un petit peu en empathie avec les êtres qui nous entourent.
Merci beaucoup.
Merci à vous. On est parti dans des grands débats.
Mais j'invite nos lecteurs à poursuivre ce cheminement avec Werner et Rebecca, qui permettra de nous dire en conclusion que décidément ce Werner fait partie des nôtres en humanité, car oui, son cheminement est un petit peu le nôtre, même si nos histoires sont forcément moins romanesques, moins dramatiques, moins pleines de rebondissements. Néanmoins, son cheminement est celui de tous les hommes, d'être un cheminement vers la sagesse et cette lumière que nous évoquions.
Mais je vous remercie infiniment.
Merci à vous, j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver pour votre prochain roman, car j'ai compris, et tous nos auditeurs aussi, qu'il y en avait un autre en route.
J'y travaille.
Merci beaucoup, je reprécise donc à nos auditeurs qu'ils doivent absolument lire le dernier des nôtres d'Adélie de Clermont-Tonnerre, publié chez Grasset. Merci encore.
Merci beaucoup.